Donc nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed qui vient pour un séjour d'une dizaine de jours à Genève, grâce à l'hospitalité d'Elisabeth, que je remercie encore, et notamment parce que nous avons un voyage d'études à Heiden, Zurich, Lucerne, enfin on fait la grande tour de Suisse pour le jour anniversaire de la mort d'Henri Dunant, le 30 octobre à Heiden. C'est un moment très, très, très important. Alors, j'ai demandé à Mohamed s'il pouvait nous faire une petite causerie sur ses travaux par rapport notamment à l'émir Abdelkader, qui est un de ses modèles, un de ses rêves, une de ses nostalgies, probablement aussi. Et il est vrai que la société Henri Dunant s'est complètement branchée sur ce voyage à Heiden. Même mardi 28, on a une autre causerie, cette fois-ci avec des membres correspondants de Tunisie, mais d'Italie avec Castiglione, du Val-de-Marne avec et la Croix-Rouge française, et avec Hervé Pillet, et puis du monde des collectionneurs d'objets Croix-Rouge avec Alain Israël, qui est un chercheur absolument incroyable, qui vient de monter un petit musée Croix-Rouge chez lui, à Nesle-la-Vallée, et qui va nous parler de cette création tout à fait originale. Alors, je crois que je ne vais pas prolonger. Je n'ai pas besoin de vous présenter Mohamed parce que vous le connaissez probablement mieux que moi. Et je lui laisse tout de suite la parole. Donc je remercie Stéphane, membre de notre comité, tellement actif, qui notamment s'occupe de nos podcasts. C'est-à-dire que dans quelques jours ou plusieurs jours, ensuite, la conférence de Mohamed, s'il le veut bien, sera disponible sur les ondes du monde entier. Ce qui fait assez chic, mais ce qui est réel. Alors maintenant, Mohamed, je te laisse la parole.
Merci, Monsieur le Président. Chers amis, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à la Société Henri Dunant de me permettre de prendre la parole dans ce lieu emblématique consacré à l'étude de l'histoire humanitaire de la ville de Genève, notamment celle des fondateurs de la Croix-Rouge, dont l'œuvre visionnaire guidera toujours notre engagement humanitaire. Chers amis, c'est toujours très difficile de prendre la parole après le président Durand, mais c'est encore plus difficile de parler de l'émir Abdelkader, ce personnage multidimensionnel. Alors, quelle est donc la valeur ajoutée d'une réflexion sur la figure emblématique de l'Amir Abdelkader, l'Amir Abdelkader, dans le contexte actuel? C'est l'actualité qui nous pousse à ce choix. En effet, face au bouleversement qui secoue actuellement le monde, dans un contexte marqué par le non-respect flagrant des principes humanitaires les plus élémentaires, où l'on tire sur l'ambulance avec une arrogance déconcertante et où des crises d'identité meurtrière sévissent, notamment sous nos cieux, les cieux du monde musulman, il devient donc impératif pour nous de mettre en évidence tout ce qui peut rapprocher nos différences culturelles. Dans cette optique, il est intéressant, à mon sens, de se pencher sur des figures historiques qui ont incarné ces valeurs d'humanité et de noblesse. Mettre en valeur, par exemple, les hauts faits de Saladin, Salah ad-Din al-Ayyoubi, ce grand chef militaire qui a refusé de céder à la réciprocité dans le mal en respectant les prisonniers et les civils ennemis durant les croisades, est un exemple édifiant de la grandeur qui caractérise certaines figures de notre histoire commune. De même, l'attention particulière que l'émir Abdelkader portait à ses prisonniers français témoigne de son respect pour la dignité humaine. Il est également significatif de rappeler l'engagement courageux du Genevois Charles Lénard, un des plus fidèles amis d'Henri Dunant, en faveur de l'émir Abdelkader lorsque ce dernier était prisonnier à Pau, en France. Cet engagement illustre celui de Charles Lénard vis-à-vis de l'émir Abdelkader, illustre la compassion et la solidarité qui peuvent transcender les frontières, les religions et les cultures. Henri Dunant, qui n'a jamais rencontré l'émir Abdelkader, mais le connaissait de réputation et appréciait son combat, compare sa résistance contre l'occupation française à celle de Jugurtha contre les Romains. Il écrit notamment dans son ouvrage « Notice sur la régence de Tunis » publié à Genève une première fois en 1857 et une seconde fois en 1858. Il écrit, je cite, « Le vaillant Abdelkader est un nouveau Jugurtha, tout comme ce dernier qui a su rallier à lui les Nunites, donc les Berbères, des villes et des montagnes, les populations arabes et kabyles se liguèrent autour de lui pour résister aux Français. Malgré sa défaite, l'émir reste le symbole de la résistance algérienne à l'occupation française. » Fin de citation d'Henri Dunant. Cette référence par Dunant à un nouveau Jugurtha se retrouve également dans un poème d'Arthur Rimbaud où il rend hommage à Abdelkader en reprenant le parallèle maintes fois établi entre l'émir et le roi numide dans un poème de 75 vers en latin qui commence par « Dans les monts d'Algérie, sa race renaîtra, le vent a dit non d'un le vent a dit le nom d'un nouveau Jugurtha, etc. etc. » Je ne vais pas vous lire les 75 vers. Mais qui est donc cette figure qui combinait, Abdelkader, qui combinait les qualités d'un chef militaire et d'un guide spirituel? Il est né en 1807 ou en 1808, selon les biographes. Né auprès de Mascara, à l'ouest algérien, il est issu d'une famille de Cholfa, pluriel de shérif, ce sont les descendants du prophète. Et à l'époque, l'Algérie était sous domination ottomane, et ceci depuis 1555. Son père, Mohiddin, il a même le même prénom que le grand cheikh Akbar soufi mystique Mohiddin ibn Arabi, que Abdelkader a fait connaître. Donc son père était un leader de la confrérie religieuse Qadiriya. Il donne à son fils une éducation remarquable, faisant de lui un excellent cavalier et un combattant hors pair. Pour rappel, la chute d'Alger en 1830 met fin à la domination turque et permet à Abdelkader de rentrer dans l'histoire lorsque les tribus de la région de Mascara viennent en 1832, 2 ans après l'occupation d'Alger, lui proposer le titre de sultan à son père, qui décline l'offre en faveur de son fils. Les tribus lui prêtent donc serment et Abdelkader proclame le jihad, la guerre sainte, contre l'ennemi français. À 20 ans, il est donc émir à la tête de la résistance algérienne et s'avère rapidement un adversaire redoutable pour les Français. À l'âge de 24 ans, il était déjà leader de la résistance algérienne face à l'une des premières puissances coloniales du monde. Il a incarné cette lutte pendant plus de 15 ans avant de déposer les armes en 1847 et d'être emprisonné de 1848 à 1852 à Pau et à Amboise jusqu'à ce que lui, Napoléon Bonaparte, choisisse d'honorer la parole de la France et de le libérer. Il convient de rappeler qu'en 1847, date du dépôt des armes de l'émir Abdelkader, s'est achevée la première phase de la conquête coloniale de l'Algérie. Durant cette période de pacification, La force primait le droit. Vae victis, malheur au vaincu, était la devise de l'armée française conquérante et victorieuse. Cette dernière, héritière des armées de Napoléon, allait appliquer en toute impunité et avec une violence sans limite les méthodes de guerre totale contre les populations indigènes. Cela dit, il est important de mentionner que la vie d'Abdelkader peut être divisée en deux chapitres majeurs. Le premier est celui du guerrier chevaleresque, connu pour sa magnanimité, qui commence en 1832 et finit quand il sera contraint de cesser la lutte contre les troupes françaises et rendre les armes en décembre 1847. Le second chapitre est une longue aventure spirituelle qui fera de lui l'une des références de l'islam et un chantre du dialogue entre l'islam et le christianisme. Il commence durant sa captivité en France en 1848 et s'étale jusqu'à sa mort à Damas en 1883. Qui est donc ce guerrier chevaleresque? On fait souvent remonter l'origine du droit international humanitaire moderne au Code Libère et aux conventions de Genève. Le Code Libère s'adressant aux armées nordistes pendant la guerre de sécession américaine est entré en vigueur en 1863. La première convention de Genève, ancêtre de celle de 1949, a été adoptée en 1864, comme vous le savez. Mais se focaliser sur le développement normatif des années 1863 et 64 constituerait une myopie historique, car il n'y a pas de guerre sans quelques normes vagues ou précises pour présider au déclenchement des hostilités, à leur conduite et à leur fin. Dans ce registre, les efforts de l'émir Abdelkader pour limiter par écrit la brutalité et les souffrances causées par la guerre sont louables, voire élogieux. Mais Abdelkader est malheureusement insuffisamment connu, y compris par les spécialistes. Ses exploits de chef de guerre l'ont fait apparaître comme le symbole de la résistance et ont contribué à lui faire vivre des situations où les nécessités de la guerre et celles de la préservation de la dignité humaine étaient cruellement confrontées. Malgré sa détermination à vaincre l'ennemi, il se fait également remarquer par sa préoccupation d'alléger les souffrances des prisonniers de guerre. En 1843, année de la chute de Sassmala, de sa prise par les Français, l'émir Abdelkader a promulgué un décret récompensant pécuniairement celui qui amènerait aux autorités un Français ou un chrétien sain et sauf. Si la responsabilité de la puissance détentrice pour la protection des prisonniers de guerre ne sera mise en évidence qu'après la Première Guerre mondiale, dans la Convention de Genève de 1929, le décret de l'émir visant déjà le même but, sauvegarder la vie du prisonnier. Par ailleurs, il menaçait celui qui violerait cette règle de la sanction la plus sévère. Donc l'actualité internationale nous montre que cette règle n'a rien perdu de sa pertinence plus de 170 ans plus tard. Voilà un extrait du décret de l'émir Abdelkader. Je cite. Il est décrété que tout arabe qui amènera un soldat français ou un chrétien sain et sauf recevra une récompense d'un montant de 40 francs pour un homme et de 50 francs pour une femme. Tout arabe ayant un français ou un chrétien en sa possession est tenu pour responsable de la façon dont il est traité. Il est en outre tenu sous peine de la sanction la plus sévère de conduire sans délai le prisonnier soit au califat le plus proche, soit devant le sultan lui-même. Fin de citation. L'attention que portait Abdelkader à ses prisonniers est illustrée aussi par une lettre adressée à Mgr Antoine Adolphe Dupuche, l'archevêque d'Alger. Je vous cite un extrait de cette lettre. Il s'adresse au prêtre. Envoyez-moi un prêtre dans mon camp. Il ne manquera de rien. Je veillerai à ce qu'il soit honoré et respecté comme il convient à celui qui est revêtu de la noble dignité d'homme de Dieu et de représentant de son évêque. Il priera chaque jour avec les prisonniers, il les réconfortera, il correspondra avec leur famille, il pourra ainsi leur procurer le moyen de recevoir de l'argent, des vêtements, des livres, en un mot, ce dont ils peuvent avoir le désir ou le besoin pour adoucir les rigueurs de leur captivité. Fin de citation. Nombreux sont les articles des conventions de Genève qui traitent du sujet, mais le même esprit les anime. L'émir a ainsi donné à l'avance, et sans le savoir, une description fidèle de ce qui construit aujourd'hui, précieux, encore le travail quotidien des délégués du CICR, apporter réconfort aux détenus, s'assurer que leurs droits soient respectés et rassurer leurs familles. D'autres exemples pourraient encore être cités, comme en 1860, quand l'émir, au risque de sa propre vie, prit la défense des chrétiens de Damas lors d'affrontements religieux. Il n'hésita pas à mettre en péril sa vie et celle de ses soldats pour préserver celle de milliers de chrétiens, allant même jusqu'à offrir l'hospitalité à certains d'entre eux. La conduite exemplaire de l'émir Abdelkader dans ces circonstances souleva l'admiration du monde entier. Des décorations et d'autres distinctions prestigieuses lui ont été décernées par des chefs d'État et de grandes figures de l'époque, notamment le président Abraham Lincoln, la reine Victoria, Napoléon III et le tsar Alexandre II de Russie. Dans son intervention en faveur des chrétiens de Damas, Abdelkader dira qu'il n'a obéi qu'à sa conscience et aux préceptes de l'islam, lui qui a toujours prôné un dialogue ouvert entre les religions. N'a-t-il pas écrit, je cite, « Si les hommes, chrétiens et musulmans, voulaient m'écouter, j'en ferais un seul peuple. » L'enseignement fondamental qui se dégage de cette dimension de la vie d'Abdelkader est, à mon sens, l'universalité des sources morales et spirituelles du droit international humanitaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. S'il est incontestable que l'impulsion décisive qui a conduit à la codification du droit humanitaire est due à l'initiative d'Henri Dunant et de ses collègues au sein du CICR, cette codification a trouvé un point d'appui dans les préceptes religieux et moraux qui prolongent leurs racines dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Elle trouve son ancrage également dans les traditions de chevalerie attestées dans toutes les grandes civilisations. Mais c'est la conduite de l'émir Abdelkader qui attire l'attention, car 20 ans avant l'adoption de la première convention de Genève du 22 août 1864, les instructions qu'il a données à ses troupes préfigurent celles-ci et anticipent également sur des traités adoptés bien plus tard. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le rôle emblématique de l'émir Abdelkader comme précurseur du droit international humanitaire émane des coutumes islamiques typiques liées à la guerre. À titre d'exemple, la coutume, celle des mois sacrés, al-Ashhar al-Hurum, qui sont 4 mois pendant lesquels la guerre est interdite, ou la notion de l'aman, al-aman, qui n'est autre que l'octroi de la vie sauve à un ennemi vaincu. L'émir Abdelkader disait lui-même que son comportement en temps de guerre était puisé dans les préceptes du Coran, des hadiths, donc les dits du prophète, et le comportement des premiers califes de l'islam. Selon lui, c'est le Coran qui recommande de, je cite un verset coranique, le verset 8 de la sourate Al-Insan, « Nourrir pour l'amour de Dieu, le pauvre, l'orphelin, le prisonnier et le prisonnier de guerre. » Il est clair qu'Abdelkader est en avance sur son temps et incarne une vision ouverte et moderne de l'islam qui met l'accent sur les valeurs de justice, et de compassion, préfigurant ainsi un islam des Lumières. Et cela n'étant pas de la part d'un soufi, un mystique musulman, dont la tradition mystique met l'accent sur l'amour, la spiritualité et la recherche de la vérité intérieure, loin des interprétations littérales et rigides défendues par les rigoristes tels que les wahhabistes et les frères musulmans, qui cherchent à imposer une vision étroite et dogmatique de l'islam. Cette vision moderne des Lumières d'Abdelkader, on la trouve dans ses rencontres avec des personnalités chrétiennes, d'où mon premier chapitre, plutôt, pardon, mon deuxième, Abdelkader, chantre du dialogue interreligieux. Contraint de cesser la lutte contre les troupes françaises, Abdelkader remet les armes en décembre 1847 et croit en la parole donnée du général de la Mauricière et d'un fils de roi, le duc d'Aumale. Il ne se doutait pas qu'il aurait affaire à un général parjure et un prince parjure, car au lieu de le conduire en terre d'islam à Saint-Jean d'Acre ou à Alexandrie, comme promis, lui et les siens, on les a conduits de prison en prison, de Toulon à Pau, de Pau à Amboise, pendant 5 longues années. Pendant sa captivité, l'émir a consacré ses journées à l'étude, à la prière et à la méditation. Le courage et la force qui l'ont caractérisé lors de son exil en France ont forcé le respect de nombreux Français. À Pau, l'émir va nouer un véritable dialogue religieux, en particulier avec deux visiteurs. Le premier est le protestant genevois Charles Lénard. Le second est l'ancien archevêque d'Alger, Mgr Antoine-Adolphe Dupuche. En plein cœur du XIXe siècle, ces rencontres spirituelles profondes vont installer l'émir comme le vecteur et l'initiateur d'un dialogue fécond entre l'islam et le christianisme. C'est ainsi qu'une fraternité spirituelle et une amitié épistolaire vont le lier avec Charles Hénard pendant plusieurs années. La rencontre avec Hénard ne s'est pas bornée à des seuls échanges entre érudits, car le Genevois ne pouvait ignorer la situation de souffrance dans laquelle se trouvaient les captifs algériens et en particulier leur chef. À l'issue de sa troisième visite au château Henri IV, et semble-t-il sur la demande de l'intéressé lui-même, Charles Hénard va faire sienne la cause de l'émir Abdelkader. Il prend pour cela l'initiative d'écrire à des amis, parmi lesquels des représentants français de la Chambre, et soutient l'idée d'organiser une pétition au sein de l'hémicycle. Cette action entreprise en faveur du captif algérien, Charles Hénard, la poursuit après le transfert vers la ville d'Amboise. Il est notamment à l'origine de la constitution d'un comité abdelkadérien qui réunit plusieurs personnalités paloises de la ville de Pau, dont l'objectif est de sensibiliser l'opinion publique au sort injuste fait à Abdelkader. À la fin du mois de mai 1851, la famille Hénard quitte Pau pour la Suisse. Charles Hénard ne reverra plus son ami avant sa libération 4 ans plus tard. Les deux hommes continuent cependant de s'écrire quelques rares lettres qui montrent à l'évidence qu'un lien indéfectible s'est tissé entre les deux hommes. Alors que l'émir est à Amboise, il reçoit une lettre de Charles Hénard pleine d'effusion qui s'achève par un authentique témoignage d'un amitié. Je cite « Que Dieu t'affermisse et te garde et que sa paix et son amour soient toujours dans ton cœur. C'est le vœu de ton ami qui t'aime fidèlement. » Une lettre qui faisait suite à une autre de l'émir où l'Algérien écrit à celui qui a écrit, je cite, « À celui qui possède une religion ferme et une adoration forte, le bien-aimé en Dieu. » L'émir ira jusqu'à le désigner par l'expression « connaissant par Dieu. En arabe, al-arif billah. Cette formule soufie est habituellement employée pour désigner une certaine catégorie d'aspirants soufis qui se sont éteints à eux-mêmes pour se réaliser en Dieu. Dans la tradition soufie, s'éteindre, la tradition appelée delfana en arabe, signifie la dissolution de l'ego et la perte de la conscience de soi, permettant ainsi à l'individu de se fonder dans l'unité divine. C'est un processus de purification spirituelle qui vise à atteindre une compréhension plus profonde de la réalité divine. L'émir semble reconnaître ici la possibilité pour un chrétien protestant, en l'occurrence, de se réaliser spirituellement à l'intérieur de sa propre religion. De manière plus générale, de telles formules religieuses entre un musulman et un chrétien au milieu du XIXe siècle ne sont pas courantes et montrent qu'une fraternité spirituelle est incontestablement née dans l'enceinte du château Henri IV, une relation que Charles Lénard qualifie de religieuse. La correspondance entre Charles Lénard se trouve à la bibliothèque de Genève. Une copie a été remise par Roger Durand, ici présent, aux autorités algériennes lors de l'organisation du fameux séminaire sur l'émir Abdelkader et le droit international humanitaire en mai 2013. J'ai ici les actes de ce colloque, je crois que tu les as pas, Roger, avec un papier notamment de M. Amer Zemali sur l'islam et le droit humanitaire. Par ailleurs, il est intéressant de noter que Charles Lénard, en tant qu'artiste amateur, a réalisé un portrait d'Abdelkader pendant sa captivité, malgré les réticences des autorités françaises. Quittant maintenant donc le protestant Charles Lénard et allant à la rencontre de Mgr Dupuche, l'ancien évêque d'Alger, qui depuis son retour en France en 1846, réside dans sa villa natale de Bordeaux. Celui qui n'avait eu par le passé que de bons mots pour louer la magnanimité de l'émir avait profité de sa présence à Pau pour lui rendre visite. Il s'agit bel et bien de retrouvailles. En effet, le prélat n'avait jamais oublié la délicatesse d'Abdelkader lors des négociations pour les échanges de prisonniers qui avaient eu lieu quelques années auparavant, notamment le premier échange qui a eu lieu en mai 1841. L'ironie du sort voulait que l'évêque retrouve l'émir dans une position de prisonnier. Mgr Dupuche se rend le 3 septembre 1848 au château Henri IV. Cette visite, qui va renouveler à Amboise, servira de base pour composer un ouvrage qu'il publie l'année suivante, Abdelkader au château d'Amboise. Ce livre se veut à la fois un plaidoyer et une demande solennelle en faveur de la libération de l'ancien adversaire de la France. Le livre ne tarit pas d'éloges sur l'émir et ce sont surtout les qualités morales et la noblesse de son caractère que met en premier plan l'auteur. J'étudie son passé, je n'y trouve que loyauté, fidélité à la fois jurée, écrit-il. Sur un temps plus élogieux, l'homme d'Église poursuit. Faut-il rappeler de ses miséricordes Dieu, penchant déjà connu pour sa manière de traiter ses prisonniers, j'allais dire de son humilité, de sa charité. Si le temps est quelque peu emphatique, il n'est pas dépourvu d'intention évangélique. Mgr Dupuche laisse transparaître dans son livre témoignage une fascination et une réelle sympathie pour le musulman Abdelkader. Tout comme Charles Lénard, c'est une véritable amitié religieuse qui va être initiée entre les deux hommes. C'est le 16 octobre 1852 que Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République, met fin aux 5 années de captivité de l'émir. Cette décision constituait une reconnaissance implicite de l'injustice subie par le chef algérien qui avait été trompé sur les promesses de libération faites lors de sa reddition. Par ce geste, le futur Napoléon III répare en partie, une injustice flagrante. Abdelkader quitte donc la France le 21 décembre 1852, après avoir passé 5 années en captivité, principalement à Amboise. Lorsqu'il s'embarque pour la Turquie, son ami Charles Lénard est le seul non-musulman à l'accompagner dans ce voyage. Il est à Constantinople, Abdelkader, le 7 janvier 1853, et s'établit à Brousse, en Asie mineure. Il revient en France en 1855. Napoléon III l'autorise alors à s'installer à Damas, en Syrie, et bénéficie d'une pension gouvernementale. Il voue sa vie à l'écriture et à la méditation et se consacre jusqu'à sa mort le 26 mai 1883 à l'étude et à la diffusion, à faire connaître les idées de ce grand mystique andalou, Mohiddin ibn Arabi, à travers le monde. En guise de conclusion, je dirais qu'au-delà de sa résistance héroïque, Abdelkader nous laisse un héritage précieux, celui de la magnanimité et du dialogue interreligieux à travers ses actes et ses écrits. Il a montré que la force peut aller de pair avec la compassion et que la lutte peut se conjuguer avec le respect de l'autre. Sur ses rencontres notamment avec Charles Lénard et Mgr Dupuche, ses lettres et ses actions témoignent d'une vision profonde de l'humanité et d'un engagement pour la paix. Comme il l'a si bien dit lui-même dans un de ses écrits, « J'ai la certitude que l'homme ne peut espérer accéder à la présence divine qu'en réalisant sa propre humanité. » Ces mots d'Abdelkader résument parfaitement son message de paix et d'humanité. Il restera dans les annales de l'histoire comme un passeur ou un constructeur de passerelles entre les civilisations, reliant les cultures et les cœurs dans un monde qui en a tant besoin. Merci de votre attention.
Un grand merci à Mohamed pour cet exposé à la fois synthétique et vibrant d'un précurseur qui reste une sorte de point d'interrogation, parce que autant la relation entre l'émir et Charles Hénard est attestée, autant la relation entre Dunant et Charles Hénard est en train d'être attestée, parce que jusqu'à présent on ne le savait pas, et c'est les quelques recherches que j'ai faites qui ont permis de dire qu'ils se connaissaient, mais là on n'a pas encore beaucoup de matériaux. Et finalement, les relations entre Henri Dunant et l'émir Abdelkader, elles sont à découvrir, à part cette phrase dans la notice de la régence de Tunis, on n'a pas d'autres échos. Mais c'est tout à fait possible qu'on en trouve, puisque tu l'as bien montré, il y a une parenté de démarche qui est très forte.